a pris du vin rouge.
Surtout en ce moment, avec tous les micro-particules qu'on a découvert là-dedans. Carlo, remède miracle, un bon vin.
Voilà, avec modération.
Avec modération, bien sûr.
Bientôt la tournée minérale.
Allez, on va se balader ce matin dans le cœur d'une très jolie appellation, hein, le long de la Nationale 7, Châteauneuf-du-Pape. On est dans le Sud-Rhône.
Hein, exactement.
En région rhodienne, avec Manon Missonguet. Vous êtes donc la représentante du syndicat des vignons et vigneronne de l'appellation. Alors, c'est sûr qu'en tant que Belge, c'est un très joli marché pour l'appellation. Troisième marché à l'export, me semble-t-il.
Tout à fait.
Le Belge est aussi friand de vos vins, mais c'est vrai qu'on en a tous une idée et une image un peu vieillotte. Moi, je me souviens, à l'époque, mon père achetait ces vins Châteauneuf et ils atomisaient clairement le palais. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui changent. Alors, le terroir, lui, n'a pas changé, quoique.
Non.
Mais il se passe des choses. Il y a un renouveau. Est-ce que je peux utiliser le terme sans aller trop loin dans...
Oui, on peut complètement utiliser ce terme renouveau. Effectivement, le terroir ne change pas vraiment. Le sol en tant que tel, lui, il n'a pas changé. Ce qui va changer un peu sur le terroir, ça va être le climat qui fait partie du terroir. Donc évidemment, on ne s'apprend pas que le climat change un peu ces derniers temps. Mmh. Mais évidemment, aussi, les générations de vignerons changent.
Oui.
Et donc, évidemment, chaque vigneron fait un vin avec sa propre sensibilité.
Et avec aussi une optique de durabilité dont on ne parlait pas forcément il y a encore 10 ans. Quoi.
Exactement, voilà. Cependant, comme l'appellation est aussi assez vieille, ça fait longtemps qu'elle existe.
Elle a presque 100 ans.
Donc évidemment, elle a beaucoup évolué avec le temps et elle évolue encore aujourd'hui, elle se renouvelle.
Alors, je le disais tout à l'heure en introduction, Châteauneuf-du-Pape, bon, évidemment, des vins très très importants lors de l'époque des papes d'Avignon.
Évidemment.
Et puis, il y a eu cette époque où ils ont servi un petit peu de béquille au vignoble bourguignon. Lorsque ces vins-là n'étaient pas assez colorés ou alcoolisés, on faisait venir ces vins-là pour un petit peu aider la chose.
Je sais pas c'est ce qui se raconte.
C'est ce qui se raconte.
Moi, je n'étais pas là.
Mais c'est validé par des historiens, je me suis quand même renseignée.
Évidemment.
Et puis, il y a quand même eu un moment où on en a eu marre de la chahirité à Châteauneuf-du-Pape. On s'est dit, bon, on a des acteurs importants, actifs, on va créer une appellation, une AOC qui a donc presque 100 ans et on va faire un petit peu vibrer et vivre ce terroir. Mais il a beaucoup changé en 100 ans.
Oui,
on est passé d'anciennes pratiques à de nouvelles pratiques. Il y a des types de vins très différents.
Alors, il a effectivement, les vins ont évidemment évolué, c'est ce que je disais. Ça m'a fait beaucoup plaisir d'entendre parler de cahier des charges et d'indications géographiques sur le Chicon puisqu'effectivement, c'est à Châteauneuf-du-Pape qu'on crée ce concept d'appellation d'origine contrôlée en 1936.
C'est la première.
C'est la première. Avant, le concept n'existe pas. Et c'est ici qu'on le pense et qu'on le construit. Donc ça, effectivement, c'était très important. Et ce cahier des charges-là, il n'a pas beaucoup évolué depuis 1936. Donc, finalement, les vins évoluent dans le respect de ce cahier des charges, évoluent avec aussi le goût des consommateurs,
simplement,
le goût des vignerons. Et donc, évidemment, aujourd'hui, on va attacher beaucoup plus d'importance à une culture durable, raisonnée.
On est à combien de pourcents de...
Ici, chez nous, on est à 35% des surfaces du vignoble qui sont soit en agriculture biologique, soit en biodynamie, certifiées.
Ouais.
Donc, on est plutôt sur un chiffre assez, assez élevé.
Mais ce chiffre continue d'augmenter ?
Ce chiffre continue d'augmenter. On était il y a 10 ans à 22% des surfaces.
Okay.
Donc, vous voyez, déjà, il y a 10 ans, on était intéressés par ces sujets. Ce n'est pas un sujet nouveau, c'est un sujet historique.
Oui, Manon, le climat s'y prête aussi.
Alors, évidemment.
C'est fait moins humide chez vous que...
Évidemment.
Même qu'à Bordeaux.
Les vignerons ne sont pas contents quand je dis ça, mais je dis souvent que c'est plus facile de faire du bio chez nous qu'à Bordeaux.
Mais c'est pas grave que ce soit plus facile.
Mais du coup, ce chiffre-là, il peut paraître tout petit, encore 35% de conversion bio.
Ramené aux 10-12% à l'échelle française, finalement.
C'est bien.
Évidemment, il y a une marge de progression, mais il est déjà pas mal, voilà.
Mais il y a aussi une nouvelle génération qui entre dans le jeu. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est eux qui sont souvent porteurs de ces projets plus durables, me semble-t-il.
Oui.
Est-ce que ça se confirme sur l'appellation Château ?
Alors, disons que la nouvelle génération va surtout apporter des nouveautés, va réfléchir collectivement à de nouvelles pratiques. Voilà, même s'il y a des gens qui faisaient déjà de l'agriculture biologique à Châteauneuf dans les années 90. Voilà, mais aujourd'hui, on va réfléchir à des nouvelles pratiques. Et surtout, les jeunes s'organisent pour replanter des arbres, par exemple. Travailler sur la biodiversité du vignoble. Replanter des espèces. Travailler sur des nouvelles méthodes de viticulture, comme de la taille douce, par exemple. Oui. Voilà, donc c'est effectivement plein de nouvelles choses qui sont mises en place et qui sont plutôt portées par la jeune génération. Mmh. Et puis, il arrive aussi que les jeunes arrivent à convaincre aussi l'ancienne génération à changer leur pratique. Car quand ça marche, il n'y a aucune raison de ne pas changer.
Alors aujourd'hui, c'est environ 300 producteurs, un petit peu moins, 280 me semble-t-il, des cépages, 13 cépages, différents.
Ça, c'est vraiment la particularité de Châteauneuf.
Oui, ça, 13 c'est vraiment cépages.
C'est les 13 desserts.
Dont le rouge cardinal, le fameux grenache, on a la syrah, on a d'autres très jolies choses. Mais le grenache est quand même toujours très... dominant.
Le grenache est vraiment le cépage roi à Châteauneuf-du-Pape. Il y a 70% de l'appellation qui est plantée en grenache. Donc il y a vraiment beaucoup de grenache. Mmh. On va retrouver dans les assemblages beaucoup de grenache Syrah Mourvèdre. C'est un peu l'assemblage classique de Châteauneuf-du-Pape. Mais effectivement, la tradition à Châteauneuf, c'est aussi d'utiliser les 13 cépages et de les assembler. Oui. Donc on va aussi retrouver beaucoup de cuvées qui assemblent les 13 cépages.
Qui peut justement leur permettre de toucher à quelque chose de plus léger. Il y a encore 30 ans, Robert Parker l'avait dit, ils font partie des meilleurs vins au monde, mais on connaît aussi le goût de Robert Parker, ce célèbre grand critique de vin.
Qui aime le goudron.
Qui aime les vins ultra chers. Enfin,
qui aime les vins assez extraits, on peut dire.
Et aujourd'hui, ces différentes approches avec les assemblages différents permettent d'avoir des vins beaucoup plus légers. Là, vous êtes venu notamment avec une... Alors, on produit aussi du blanc, Châteauneuf-du-Pape.
Très peu, 7% de blanc sur l'appellation.
Produit par une femme, Isabelle Ferrand. Que j'adore, ça fait longtemps que je la suis. Elle travaille désormais aussi avec sa fille Guillemette.
Exactement.
Et là, on n'a pas à l'aveugle, je ne peux pas dire qu'il vient de Châteauneuf-du-Pape, ce vin.
Ah, il y a quand même une trame que je qualifierais de sudiste.
De sudiste, mais il y a cette légèreté que je ne retrouve pas.
Oui.
Dans les blancs classiques.
Qu'on n'a pas l'habitude de trouver, effectivement, qui est un peu à contre-pied. On pense au stéréotype de... On est au sud de la vallée du Rhône, il fait très chaud.
Ouais.
Donc on a l'impression qu'on va avoir des blancs assez, très riches, un peu lourds, très structurés.
Voilà.
Châteauneuf-du-Pape, ce n'est pas du tout le cas. On va retrouver beaucoup de fraîcheur grâce à la clairette, qui est un cépage qui est très utilisé sur l'appellation. Beaucoup de fraîcheur, une petite pointe de salinité, de l'amertume. Et leur particularité, c'est que c'est des blancs qui vont beaucoup vieillir dans le temps.
Mmh.
Donc on peut garder des blancs de Châteauneuf une dizaine d'années sans problème.
Petite réaction de nos deux chefs dégustateurs aussi. Attention, ça ne rigole pas. Yann Verhaert et Kevin Perlot, vous goûtez ce vin blanc de Châteauneuf. Est-ce que d'abord c'était une appellation que vous connaissiez, que vous pourriez éventuellement servir au restaurant ?
J'en ai au restaurant, du Châteauneuf blanc. J'avoue que ce n'est pas celui qui se vend le plus. Mais
c'est pas du chardonnay.
C'est pas du chardonnay, quoi.
Ouais. Est-ce que vous buvez là ? Est-ce que ça vous...
On va le goûter.
Oui, parce qu'il n'ose pas boire avant midi, il m'a dit. Et vous, Kevin Perlot ?
C'est vrai que c'est assez... Je comprends le côté typé sudiste quand même, parce que je ne sais pas s'il y a un peu d'élevage, mais en tout cas, on sent qu'il y a...
Oui. Il y a un élevage très intéressant sur ce vin. C'est un vin qui est élevé en partie dans des globes de verre. Travailler une certaine tension. Donc à moitié en globe de verre et à moitié en foudre. On fait très peu d'élevage en barrique. Chez nous, on fait beaucoup d'élevage en gros contenant.
Donc si c'est un élevage en foudre, finalement il y a très peu d'impact du bois.
Exactement.
Et donc on sent une belle structure due au climat, mais toujours comme on évoquait tantôt, super sur la fraîcheur, avec une belle c'est vrai que la sénilité est assez intéressante.
Voilà, et puis pas mal d'auditeurs et d'auditrices qui nous disent effectivement il y a de plus en plus de vigneronnes qui émergent, notamment Laureline Jacumin, dont on parle beaucoup, qui a repris l'exploitation familiale.
Tout à fait, qui fait partie des jeunes vignerons de Châteauneuf, très impliqués justement sur ces thématiques de développement durable.
C'est chouette. Voilà, donc c'était une occasion, Carlo. Je ne sais pas si vous êtes amateur de ces vins rhodaniens.
Alors, moi, je suis amateur de tout, mais c'est vrai que je suis amateur. Mais franchement, et donc, et j'aime bien les vins blancs justement qui réussissent à être à la fois du sud, on voit ça beaucoup en Italie, en Corse notamment maintenant, qui réussissent à être à la fois du sud sans être imprégnés par ce côté tisane de chêne et d'être plutôt sur comme vous le dites, j'aime pas trop le mot, mais le mot est utile, on le comprend, une forme de tension dans le vin.
Oui, c'est les mots de la vigneronne.
C'est
ce qui est recherché, je pense, avec cet élevage.
Le mot en ce moment, c'est tension.
Et dites-moi, j'ai dit tension, j'ai pas dit minéralité.
Madame, vous l'avez dit. Dites, Manon, juste, parce que vous savez, les Belges aiment beaucoup partir pour des petites balades éno-touristiques.
Et oui, il faut venir chez nous.
C'est une région qui se prête bien.
Superbe destination.
On passe par la Nationale 7.
Tout à fait.
Et là, on s'arrête comme ça.
Exactement.
Et il y a notamment un restaurant dont je voudrais qu'on parle.
Et oui.
Dont aujourd'hui, un chef belge et consultant, Christophe Hardiquest himself, de chez Mensa et qu'on adore, qu'on surlike et tout.
Un petit peu de Belgique au cœur du village.
Ouais, et donc, ce restaurant, il est où exactement?
Il est au cœur du village, à deux pas du château.
C'est génial.
Et ça s'appelle la mère Germaine.
Ben voilà.
Ta mère Germaine. Non, la mère Germaine.
Et on embrasse Christophe parce que je sais qu'il écoute l'émission tous les samedis. Un petit peu de belgitude en pays rhodanien, c'est tout ce qu'on a. Merci beaucoup pour ces très jolies découvertes. On aime comme ça un petit peu sortir des sentiers battus, surtout en hiver. Qu'est-ce qu'on irait faire à Châteauneuf?
Ça réchauffe.
Mais ça réchauffe un peu.
À Châteauneuf, en Provence, il fait à midi, quand il y a du soleil, il fait 20 degrés.
Ouais, il y a moins de neige qu'à Bruxelles.
Ouais, mais qu'est-ce qu'on fout ici, Carlo?
Écoutez, moi j'ai bien aimé cet épisode neigeux, comme ça, tout le monde a râlé sur le trafic, tout ça.
Ouais.
C'était très chouette.
2 heures de route pour venir faire une interview à 8h jeudi, j'ai adoré.
Oui, mais c'est beau la neige, ça permet de... c'est beau, moi j'adore marcher comme ça, comme si on était au ski. J'adore.
En tous les cas, les amis, merci pour ce joli partage. On va mettre quelques recettes évidemment de chicon sur le site lapremière.be. Yann Verhaert, on vous retrouve donc chez Monsieur V, à Linkebeek, région flamande, un jet de pierre de la région bruxelloise.
10 mètres de Hucle. Ouais.
La cuisine est en région bruxelloise et la porte est en région flamande. Voilà. C'est encore une histoire flamande. Voilà, c'est ouvert ce soir et puis allez sur le site pour les infos. Kevin Perlot, ça se passe chez Vertige, rue de Flandre.
En plein centre-ville.
Yes.
Voilà. Et vous êtes ouvert quel jour?
On est ouvert du mardi au samedi. Vendredi
et samedi. Et le samedi midi.
Voilà.
Et le samedi
midi. Que du bonheur. Et puis sinon, buvons de bons flacons. Faisons-nous plaisir. Ça fait un bien fou. On se retrouve la semaine prochaine, Carlo, avec un super gaillard. Je l'adore. Il s'appelle Benoît Castel. Il est boulanger, pâtissier formidable, mais surtout, absolument passionné par les techniques de conservation des aliments. Et il nous fera partager tous ses petits tips, ses astuces.
Magnifique.
Samedi prochain, ça vous dit?
Bah écoutez, je pensais avoir noté ça dans mon agenda. Bon. Oui.
Carlo, soyez heureux.
Mais
profitez
vous
bien
aussi,
ce bon week-end. Merci à Vincent Van Der Venet qui réalisait cette émission. Profitez bien. Ovio.be pour le podcast et toutes les plateformes de téléchargement. On vous embrasse bien fort et vive la gourmandise.
La première. Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.